Ce document qui est donc promulgué actuellement, c'est un document qui en effet a quelque chose d'historique dans la mesure où il se propose avant tout de se prononcer sur une commémoration, puisque voici 5 siècles que la réforme a commencé, et donc il a paru important aux responsables du côté catholique comme du côté luthérien, il a paru important de réfléchir sur ce que pouvait signifier cette commémoration du début de la réforme de 1517, qu'est-ce que ça peut signifier au fond à la fois pour les catholiques et pour les luthériens. C'est la première fois qu'on assiste à une commémoration œcuménique du début de la réforme. Jusqu'ici, ça n'avait jamais existé. Il y a eu bien sûr des déclarations du pape Jean-Paul II, du pape Benoît XVI, à propos de Luther, il y a eu des textes qui ont été produits, mais c'est la première fois que les commencements de la réforme donnent lieu à une commémoration œcuménique. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour l'année 2017. Comment vivre cette commémoration et comment la célébrer?
Alors, ce document est intitulé « Du conflit à la communion ». Et donc reparcourt une histoire assez douloureuse hein, entre les catholiques oui. et les luthériens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point? Qu'est-ce que dit le document sur cette histoire?
Alors, vous noterez d'abord que ce document parle de commémoration. Une commémoration, ce n'est pas forcément un anniversaire qui est joyeux, surtout à tout point de vue. Une commémoration implique, dans le cas présent, la reconnaissance de ce qui nous a divisés et aussi des attitudes, au fond, non évangéliques qui ont pu être les nôtres de part et d'autre, au moment en particulier des controverses les plus dures entre les catholiques et les luthériens. Donc il y a cette part de reconnaissance, au fond, de ce qui a été forme de péché, ou en tout cas contre-témoignage par rapport à l'Évangile. Mais il y a aussi dans cette commémoration quelque chose d'éminemment positif, c'est-à-dire la reconnaissance de ce qui, à travers l'Église catholique, comme à travers les luthériens, a pu justement incarner une forme ou des formes de fidélité à l'Évangile. On essaie au fond de faire le point, de discerner les ombres et les lumières dans cette période, avec bien sûr un souci avant tout de chercher comment aller de l'avant vers la communion espérée. Mais nous venons de loin, nous venons de périodes de graves controverses, et heureusement, depuis quelques décennies, grâce au développement du mouvement œcuménique, les choses se sont bien améliorées, et il reste évidemment encore des pas à faire, mais je pense que ce document représente un jalon important dans cette marche vers la communion espérée.
Ce document s'attache également à développer les progrès qui ont été accomplis dans ce dialogue entre luthériens et catholiques, des progrès essentiellement théologiques.
Oui, il y a eu des progrès en matière théologique sur beaucoup de points, sur des points tout à fait fondamentaux. Le plus important, c'est la doctrine de la justification par la foi. Les luthériens et les catholiques se sont vivement opposés sur ce point au XVIe siècle et dans les siècles suivants. Or, l'accord de 1999 a montré qu'il y avait désormais un accord, une entente substantielle entre luthériens et catholiques sur ce sujet qui pourtant jusque-là a divisé. Et ça, c'est grâce à tout le travail du dialogue œcuménique et grâce au travail de réflexion théologique qui a été mené depuis plusieurs décennies. Mais il y a aussi d'autres thèmes théologiques fondamentaux sur lesquels des rapprochements et même des accords ont été atteints entre luthériens et catholiques. Par exemple, en ce qui concerne l'écriture et la tradition, vous savez que traditionnellement, les luthériens insistent essentiellement sur l'écriture, sola scriptura, tandis que la tradition catholique a toujours voulu, tout en insistant aussi sur l'écriture, bien sûr, elle a voulu aussi souligner l'importance de la tradition. Or, le dialogue œcuménique qui a été mené, surtout depuis une cinquantaine d'années, entre catholiques et luthériens, a permis de montrer qu'il y avait des rapprochements très très importants, des vues communes pour l'essentiel sur le rapport écriture-tradition de part et d'autre. On pourrait aussi prendre l'exemple de l'Eucharistie. Là aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup de progrès qui ont été faits. Sur tous ces points, il y a eu vraiment, sinon des accords aussi solennels, aussi officiels que celui d'Augsbourg sur la justification, tout au moins des rapprochements très réels entre catholiques et luthériens.
Ce document est, on peut dire, un état des lieux du dialogue avec les progrès accomplis, etc. Mais il reste aussi, évidemment, des points de résistance. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
D'ailleurs, c'est ce qui est dit par le document, le principal pas qui reste à franchir concerne la compréhension même de l'Église, si vous voulez. Bon, sur ce point aussi, il y a des rapprochements qui ont été faits, mais il reste encore des chemins à parcourir parce que, pour le dire de façon très, très rapide et très brève, du côté catholique, on a tendance à considérer que l'Église a un rôle en quelque sorte actif dans l'économie du salut, tandis que la tradition luthérienne porte plutôt à considérer l'Église comme davantage passive, comme instrument, si vous voulez, de l'administration, de l'économie du salut. Donc il y a des divergences qu'il faudra pouvoir, espérons-le, surmonter dans les années ou les décennies qui viennent.